Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Soccer Love.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. No leave. Leave what? No leave. Leave what?
Ooh. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Balotelli, Aguero.
Soccer love is amazing.
Donc, ben, on va commencer à parler, avec cette émission, on va commencer à parler tout simplement de qu'est-ce qui se passe du côté européen. On est vraiment focusé du côté de l'Europe pour cette émission, principalement. On fait l'alternance avec les continents, on parle souvent d'Afrique, des fois d'Asie, des fois de la CONCACAF, l'Amérique. Mais aujourd'hui, on va être surtout dans le continent européen. Donc, premièrement, ben, écoutez, on sait qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Russie avec l'Ukraine. Ils ont un gros conflit, la Russie, évidemment, est allée du côté de l'Ukraine. Bon, ça a causé beaucoup de problèmes. On parle évidemment d'une guerre ici, donc on va voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochains jours, en espérant que le tout fasse le moins de morts possible et que le tout, évidemment, puisse se terminer le plus rapidement possible, sans trop de dommages, évidemment, pour nos amis ukrainiens. Donc, on va commencer tout simplement par vous dire que les qualifications pour la Coupe du Monde, il reste des places à chercher. Et en Afrique, il y a des places à chercher. En Asie, en CONCACAF, en fait, partout. C'est terminé nulle part. Mais du côté de l'Europe, on est rendu au match de barrage. Donc, c'est-à-dire qu'on a trois groupes de quatre équipes. Et une équipe sur quatre va se qualifier. Donc, le 24 mars, on a Pays de Galles-Autriche et Écosse-Ukraine. Les gagnants de ces deux matchs-là vont s'affronter pour un match. Évidemment, pour aller du côté de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera du côté du Qatar. Donc ça, c'est simple. De l'autre côté, on a un choc. On a le 24 mars, Portugal qui reçoit la Turquie à Porto. Et on a l'Italie qui reçoit la Macédoine du Nord du côté de Palerme. Côté de Palerme en Sicile, ça c'est intéressant parce que le club sicilien de Palerme est en 3e division italienne. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a aucun club sicilien est même en 2e division italienne, ce qui est quand même catastrophique. Parce que Catania n'y est pas, Palermo n'y est pas. Et d'ailleurs, même Bari, qui est, ben c'est pas en Sicile, là, mais Bari, c'est dans la botte de l'Italie. Même pas, c'est une grosse ville. Ils ne sont même pas non plus en Série B, évidemment pas en Série A. Donc évidemment, le gagnant de ces deux matchs-là, donc on pourrait très bien avoir un Portugal-Italie. Donc en gros, ce que ça veut dire clairement, c'est que soit le Portugal ou l'Italie, un des deux n'ira pas à la Coupe du Monde, c'est clair. Et peut-être, si un miracle se produisait, peut-être même les deux, parce qu'on pourrait très bien avoir un peut-être Turquie-Italie, et peut-être que la Turquie prendrait sa revanche de l'Euro dans lequel ils se sont fait battre par l'Italie, 3-0. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vous parle de ces qualifications-là, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la Russie, le 24 mars, est censée accueillir la Pologne du côté de Moscou. Et le 24 mars... C'est-à-dire, dans ce même groupe, on a la Suède qui va recevoir la République tchèque. La Pologne, la Suède et la République tchèque, les trois pays, ont dit qu'ils n'iraient pas jouer en Russie, tout simplement. Right? Donc, on sait que, par exemple, si la Russie se qualifierait et battrait la Pologne, elle devra jouer contre la Suède ou la République tchèque. Alors là, ça pose un problème parce qu'évidemment, si c'est censé se passer du côté de la Russie, parce que si la Russie bat la Pologne, le match qui va déterminer qui va à la Coupe du Monde entre la Russie et la Suède ou entre la Russie et la République tchèque sera en Russie. Et donc, beaucoup disent, ben, en fait pas beaucoup, ces trois pays-là ont dit tout simplement qu'ils n'iraient pas du côté de la Russie. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être même que la Russie va être exclue de la Coupe du Monde du Qatar, peu importe qu'est-ce qui arrive. On ne le sait pas. Un peu comme la Yougoslavie avait été exclue, je crois, à l'Euro 92 et qui avait été remplacée par le Danemark qui avait lui-même gagné cette compétition-là. Ça, c'est une histoire un peu folle parce que la Yougoslavie, si je ne me trompe pas, c'était à cause des frappes en Bosnie. Ils étaient fait exclure, évidemment, de l'Euro. Mais ça reste à confirmer, mais je suis sûr à 99%. Donc, c'est très intéressant. Pardon. Et là, évidemment, on voit aussi que la finale de la Ligue des Champions devait se passer du côté de Saint-Pétersbourg et énormément de sources pointent vers le fait que cette finale de Ligue des Champions n'aura pas lieu du côté de Saint-Pétersbourg. Donc, on est dans des moments très difficiles du côté, évidemment, des gens, premièrement, qui vivent en Ukraine. Mais également sur le monde du foot, ça va avoir des changements là, dans les prochains mois pour voir. Parce que là, est-ce que la Pologne va se rétracter puis va dire « Ben non, finalement, on va aller jouer en Russie ». Puis évidemment, on parle de soccer ici, mais évidemment, la Russie, c'est un bon pays aussi au basket. Il y a la Ligue des champions de basketball. Beaucoup d'équipes de basket européennes ont dit « Ben non, on n'ira pas jouer en Russie ». Donc, ça va être très important de surveiller qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Maintenant, on va changer de sujet parce que vous le savez, c'est une émission dédiée au soccer et non pas à la politique ici. Mais on a des matchs qui se sont terminés cette semaine. On a eu de la Ligue des champions, pardon. Et on a eu aussi de l'Europa League et de la Conference League. Donc, tout simplement, pour commencer, ben, Ligue des champions, on a eu un certain Manchester United qui a joué contre nos amis de l'Atlético Madrid, et ça se passait du côté de Madrid en Espagne, et ça s'est terminé 1-1, vraiment pas le match le plus intéressant. D'ailleurs, c'est le nouveau joueur suédois, Anthony Elanga, qui a marqué à la 80e minute, donc c'est un jeune joueur. Ronaldo, évidemment, est méconnaissable, mais bon, il est plus connaissable que Messi avec le Paris Saint-Germain, là. Ça, c'est évident, mais c'est un match qui se termine 1-1 du côté de l'Atlético Madrid. Donc, le match retour aura lieu dans quelques semaines. Et également, on a eu le match Benfica, équipe portugaise, qui recevait l'Ajax Amsterdam. 2-2 du côté de Lisbonne. Donc, évidemment, tout reste à jouer. Il faut le rappeler, évidemment, que les buts marqués à l'extérieur ne départagent plus en cas d'égalité. Donc, avant, ce qui se passait, c'est que, par exemple, si, je sais pas, moi, je donne deux équipes, Barcelone, Real Madrid, par exemple. Si le Real Madrid faisait match nul 1-1 du côté de Barcelone et c'était 0-0 à Madrid, le Real Madrid était qualifié parce qu'ils avaient marqué plus de buts à l'extérieur. Et maintenant, cette règle-là n'est plus valable. Donc, ça fait en sorte qu'il y a moins de pression pour les équipes, par exemple, qui encaissent des buts à domicile. Tout est encore jouable à l'extérieur. Évidemment, en Ligue des champions, Chelsea a battu Lille 2-0. Lille a fait ce qu'ils ont pu, mais Chelsea était beaucoup trop fort pour eux. Et Villarreal, Juventus 1-1. La Juventus, on sait, là, c'est plus la même Juventus qu'avant. Avec un but de Vlahovic, l'attaquant serbe, qui a marqué à la première minute. Et évidemment, Dani Parejo, l'Espagnol de Valencia, qui joue maintenant à Villarreal, a égalisé à la 66e minute. Donc, match à jouer, évidemment, dans quelques semaines également. Également, du côté de l'Europa League, on a eu des matchs intéressants, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs bons matchs. Premièrement, on va vous donner ça tout de suite, hein. Il n'y a pas de stress. On a nos amis de l'Olympique de Marseille, évidemment, qui sont allés s'imposer du côté de l'Azerbaïdjan, 3-0. Donc ça, c'est un très bon résultat, avec notamment des buts de Corentin de la Fuente, l'Américain, Guendouzi, et notre ami Pape Gay, le Sénégalais. Lazio Porto, 2-2. Porto élimine la Lazio. Ça, c'était quand même un gros choc. Atalanta 3-0 du côté des Grecs de l'Olympiakos, donc ils sont qualifiés. Et le joueur ukrainien qui joue à Atalanta, Maslinovski, a évidemment rendu hommage à son pays. Là, il y a eu beaucoup d'hommages en ce sens. Dynamo Zagreb bat Séville 1-0 du côté de la Croatie, mais Séville est qualifié pour le prochain tour. Leipzig gagne 3-1 à la Real Sociedad. Ils sont qualifiés, les Allemands. On a déjà parlé, évidemment, de l'Olympique de Marseille. Real Betis 0-0 contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Le Real Betis élimine les Russes du Zénith. D'ailleurs, c'était la seule équipe russe qui restait du côté l'Europe. Puis bon, ça s'est passé, c'est sûr que si ce match-là peut-être avait eu lieu en Russie aujourd'hui, là il avait lieu en Espagne, est-ce que le Real Betis serait allé? Je ne le sais pas. Évidemment, on a Sporting Braga du Portugal qui gagne 2-0 contre Sheriff Tiraspol et Barcelone qui élimine malheureusement Naples de Lorenzo Insigne. Et je suis déçu. Et pourquoi je suis déçu? Tout simplement parce que c'était la dernière compétition européenne pour Lorenzo Insigne. Probablement, peut-être, de sa carrière parce qu'il va signer à Toronto FC. Et cette équipe du FC Barcelone était prenable et ils se sont fait malheureusement massacrer. Et je suis triste parce que Lorenzo Insigne, c'est quand même un grand joueur, là, un joueur légendaire de Naples. Je trouve ça complètement catastrophique qu'il ait signé du côté de Toronto. Honnêtement, là. Joueur, leader du vestiaire de l'équipe nationale d'Italie, capitaine de Naples, joueur ayant né, qui est né, qui a grandi et qui a vécu presque toute sa vie du côté de Naples, il signe pour venir à Toronto. Honnêtement, s'il était venu à Montréal, j'aurais dit la même chose, même si j'aurais été content de le voir, là. Mais c'est un choix, évidemment, qui se résume principalement à l'argent. C'est sa vie, il fait qu'est-ce qu'il veut. Je suis pas là pour le juger, mais bon, je trouve ça triste parce que pas beaucoup de gens en parlent, évidemment, mais c'était le dernier match européen de Lorenzo Insigne pendant très longtemps. Côté Conference League, on a le FK Partizan de la Serbie qui élimine le Sparta Prague. Bodo Glimt élimine le Celtic. Ça, c'est pas bon pour le Celtic. Leicester City élimine les Rangers FC du côté du Danemark. Et également, on a le AOC de la Grèce qui élimine Midtjylland du Danemark, Slavia Prague élimine Fenerbahçe et Vitesse Arnhem élimine le Rapid de Vienne de l'Autriche. Maintenant, il va y avoir un tirage très bientôt concernant l'Europa League. En fait, pour pas vous mentir, il est aujourd'hui, vendredi, mais comme vous savez, cette émission est enregistrée en avance, donc je n'ai pas évidemment, les matchs de barrage qu'on va avoir, c'est-à-dire pour le prochain tour. Mais il va en avoir très bientôt et je vais vous les donner la semaine prochaine sans faute. Maintenant, juste pour vous dire aussi que pour la Conference League, ce qui est intéressant, là, c'est que il y avait des équipes qui sont qualifiées. Ceux qui ont été terminés premières de leur groupe n'avaient pas à jouer ce match de barrage, c'est-à-dire ce match aller-retour. Là. Maintenant, il reste 16 équipes. Les 8 équipes qualifiées pour le dernier tour de la Conference League, pour le tour précédent, plus les 8 gagnants de groupe. Les 8 gagnants de groupe, c'était LASK de l'Autriche, Gent de la Belgique, Copenhague du Danemark, Rennes de la France, l'AS Roma de l'Italie, l'AZ Alkmaar des Pays-Bas, Feyenoord Rotterdam des Pays-Bas et Bâle. Et évidemment, du côté des 8 équipes qui viennent de se qualifier, on a le Slavia Prague, Leicester City, Marseille, PAOK, PSV Eindhoven, Vitesse, Bodo Glimt, Partizan Belgrade. Donc on a quand même Leicester City, on a Marseille, on a la Roma, on a quand même des grosses équipes là, qui pourraient être championnes. Et ça c'est j'aime cette compétition européenne-là parce que c'est un titre qui est pris au sérieux par énormément de pays et par énormément de clubs parce que c'est un championnat européen. Donc voilà, c'était l'information pour les coupes européennes de la semaine. À Soccer Love!
Meu é teu, sonho meu, é teu dever que ele se cumprirá. Levo o seu entristecer e serei eu o seu motivo para sonhar. Tive a sorte de encontrar-te e ser tua parte. Demos voltas sem dar contas, chocamos mais que uma vez. Somos leves e que eu te irei perder. Meu é teu. Que kill my fist. Somos leves e nem que seque. Eu te irei perder.
Donc, c'était l'excellente chanson de Diogo Pissarra Verdadeiro, un artiste portugais qui vient du sud du Portugal, de Faro, un endroit en Algarve qui est évidemment très connu pour ses très belles plages, évidemment côté méditerranéen, atlantique. En fait, non, côté atlantique, parce que le Portugal ne touche pas à la mer Méditerranée. C'est l'Espagne qui a cette chance. D'ailleurs, ça m'avait surpris quand j'avais vu les Jeux Méditerranéens, qui est une compétition sportive qui existe. Je ne sais plus si elle existe encore, mais elle existait. Et quand j'ai vu que le Portugal n'y était pas, je me suis rendu compte que, ah oui, en effet, le Portugal ne touche pas à la Méditerranée. C'est intéressant pareil, hein, quand on voit ça sur une carte. Donc écoutez, on va parler du club de foot Montréal, le CF Montréal, qui est en action. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas parlé. Évidemment, l'équipe qui est entraînée par le français Wilfried Nancy, qui a connu une saison correcte l'année passée, évidemment, étant donné les circonstances de l'équipe, le COVID, le fait qu'elle ne pouvait pas jouer à domicile, tout ça. Donc là, ils étaient de retour avant, évidemment, leur prochain match qui va se passer cette fin de semaine. Du côté de où? D'Orlando. Parce qu'évidemment, on commence où est-ce qu'il fait chaud. Donc, Orlando City, club de foot Montréal, c'est le 27. Donc, dimanche, 1h, la saison de MLS commence. Qu'est-ce que ça me dit? Ça dit que le printemps s'en vient. Ça me dit que l'été s'en vient. Ça me dit que le foot s'en vient. Ça me dit que le foot et le froid peuvent cohabiter avec la MLS. Parce que, ben, le CF s'en va jouer quand même du côté d'Orlando. Et le 5 mars, c'est Philadelphie qui s'en vient du côté de Montréal. D'ailleurs, je crois que les équipes de New York et tout ça, elles, les équipes pour ce qu'il y a de la neige comme Chicago, tout ça, si je ne me trompe pas, je crois qu'ils jouent leur match aussi à l'extérieur. Alors qu'évidemment, du côté de Montréal, en mars, jouer à l'extérieur, c'est très compliqué. Et en février, impossible. Donc voilà. Donc là, évidemment, on va parler de la Ligue des champions de la CONCACAF, qui est la plus grosse compétition du continent d'Amérique du Nord. Évidemment, on inclut là-dedans les Caraïbes aussi et l'Amérique centrale. L'Impact, le club de foot de Montréal, avait perdu 1-0 du côté de Santos Laguna à Torreón, qui est au nord du Mexique, dans un match ordinaire, dans un match pas très intéressant. Et là, c'était le match retour. Le match devait avoir lieu mardi, mais finalement, il a eu lieu mercredi à cause du verglas qu'on a eu mardi, tout ça. Donc, les joueurs de Santos Laguna ont eu une journée de plus, mettons, pour s'acclimater, entre guillemets, avec le terrain, avec tout ça. D'ailleurs, ils se sont demandé pourquoi est-ce que le match est reporté d'une journée alors que le match se joue à l'intérieur. Quand même intéressant, mais bon, le toit du stade olympique, etc., etc., c'est compliqué. Donc, l'Impact, on le sait très bien, il y a un historique entre ces deux équipes-là, parce qu'en 2009, quand le club de foot Montréal n'était même pas en MLS, ils ont joué la Ligue des champions contre Santos Laguna en 2009. Et à l'époque, ça passait à ESPN, là, c'était énorme, c'était vraiment là du jamais vu pour une équipe canadienne de participer à la Ligue des champions. Et ils avaient gagné 2-0 contre Santos Laguna au Stade olympique. Et ils étaient allés après ça à Torreón du côté du Mexique. Ils avaient perdu 5-2, mais ils menaient à un certain moment. Là, ils avaient marqué 2 buts. Ce qui veut dire qu'à 4-2, l'équipe de Montréal était qualifiée parce que ça aurait fait 4-4 au global. Mais les buts à l'extérieur... C'est-à-dire que ça faisait 4-4 au global, mais Santos Laguna a marqué le 5e but. Donc, ce qui fait en sorte que le club de foot de Montréal a été éliminé, qui s'appelait à l'époque évidemment l'Impact de Montréal. Donc le 11 partant du côté de l'Impact, on avait Sébastien Brazon, on avait Rudy comme gardien, on avait comme défenseur Rudy Camacho, Waterman et Kamal Miller, Lassip Lapalainen sur le côté gauche, Mathieu Chouinard à droite, Victor Wanyama, le capitaine du côté du CF Montréal, le joueur du Kenya, international kenyan évidemment qui a joué à Tottenham, et Ismaël Koné aussi au milieu de terrain. On avait comme à gauche Mihailovic, Romel Kyoto comme attaquant de pointe et Joaquin Torres, l'Argentin aussi en avant à droite. Et le match, évidemment, il n'y a pas eu de match malgré l'effectif très intéressant du côté de Santos Laguna avec là-dedans des internationaux argentins, mexicains, tout ça là. Et l'Impact de Montréal, le club de foot de Montréal, j'ai toujours l'habitude de les appeler l'Impact de Montréal, mais c'est maintenant le club de foot de Montréal, voilà. Ils ont fait qu'une bouchée de Santos Laguna. Ça a commencé à la 9e minute avec Romel Kyoto qui a couru pour récupérer un ballon et qui l'a mis juste avant que le ballon puisse sortir avec un angle qui était quand même difficile. 1-0 du côté du CF Montréal. Mathieu Chouinard a eu la passe. Ensuite, Romel Kyoto a participé sur le but de Georgi Mihailovic. 2-0 à la 22e. Et à la 61e, Ismaël Koné de Georgi Mihailovic, 3-0 contre Santos Laguna. Évidemment, on va savoir contre qui le CF de Montréal va jouer le quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. C'est quand même très intéressant là, parce que c'est une compétition prestigieuse. Ça, en plus, ça commence très bien la saison parce qu'il faut le rappeler, les clubs mexicains, eux, n'ont pas de pause. Ils étaient en championnat. Ils jouent toutes les semaines, une fois par semaine, facilement. Alors que le CF de Montréal, lui, on est dans un endroit où il fait moins 30. Évidemment, il s'entraîne du côté de la Floride. Là. Bon, c'est pas un secret pour personne. Mais ça commence la saison du bon pied. Du très bon pied. On va vous nommer un peu une partie des joueurs du CF de Montréal. Notamment, le CF Montréal a signé Kai Kamara, qui est quand même un joueur qui a quand même marqué la MLS. C'est un joueur qui vient de la Sierra Leone, qui a marqué beaucoup de buts en MLS. Là, évidemment, il a joué son premier match mercredi contre Santos Laguna, mais c'est un joueur qui, avec le Columbus Crew, par exemple, il a marqué 27 buts en 41 matchs. Avec New England, 19 buts en 52 matchs. Vancouver, 14 buts en 28. Colorado Rapids, il a marqué 17 buts en 38 matchs. Sporting Kansas City, 38 buts en 113 matchs. Là, il est allé du côté de la Suède. Donc, c'est un joueur, évidemment, qui va aider le CF Montréal, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, c'est une bonne acquisition et il a offert, évidemment, du bon soccer quand il est rentré sur le terrain contre le CF Montréal. Comme attaquant, en fait, on a Kai Kamara, on a Georgi Mihailovic, on a Romel Kyoto et on a Bjorn Janssen, Mason Toy, Ibrahim Sunusi, Joaquin Torres et Georgia Cuisera. On a juste à regarder, évidemment, Mason Toy, comment il marquait des buts avant de se blesser. Donc, on a quand même des joueurs intéressants là, avec Sunusi, Toy, Kyoto, Mihailovic, Kamara. Là, je suis très quand même... J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Milieu de terrain, on a l'Égyptien Hamdi, on a Wanyama qui vient du Kenya, Lapalainen de la Finlande, on a Samuel Piet, évidemment, Bro Guillard, Rida Zouhir, Mathieu Chouinard. Ça, c'est les joueurs pas mal les plus connus du côté du CF Montréal. En défense, on a Miller, on a Gabriele Corbo qui était à Bologne et qui joue en défenseur central. Rudy Camacho qui est connu. Waterman, Bassong, Ori Porkelson du côté de l'Islande. Karifa Yao. Et comme gardien, on est bien équipé évidemment avec Sébastien Breza et James Pantemis. On a aussi Jonathan Sirois et Logan Ketterer. Maintenant, avant de conclure là-dessus, là. Je vais vous donner les prochains matchs là, du CF. Je vous l'ai dit tantôt, Orlando cette fin de semaine. Le 5 mars, le CF reçoit Philadelphie. Ensuite, on se déplace du côté du New York City FC le 12 mars. Le 19 mars, on se déplace du côté d'Atlanta. Le 2 avril, on se déplace du côté de Cincinnati. Le 9 avril, du côté des Red Bulls. Et le 16 avril, ça sera le premier match au stade Saputo d'Or pour ce qui pourrait être évidemment le début de du beau temps pour ensuite devenir le très beau temps du côté de Montréal et la province québécoise. Donc le premier match, évidemment, ça va être contre les Whitecaps le 16 avril au stade Saputo. Maintenant, juste pour vous montrer à quel point le CF Montréal est un club qui ne rigole pas en Ligue des champions CONCACAF, là, ils ont joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils ont joué 10 fois depuis qu'ils sont MLS en Ligue des champions à domicile. Je vais vous donner les résultats de ce qui s'est passé. 1-0 en 2013 contre San Jose. 2-0 contre Heredia en 2013. 2014, 1-0 contre FAS. 2014, 1-0 contre les Red Bulls. 2015, 1-1 contre Pachuca. 2015, 2-0 contre Alajuelense du Costa Rica. C'est un gros club. 2015, la finale de la Ligue des champions, ils perdent 4-2 contre le Club América. Alors que s'ils avaient un vrai gardien ce soir-là, en finale de Ligue des champions de la CONCACAF, le CF, l'Impact à l'époque, aurait pu gagner la Ligue des champions. 2020, 0-0 contre Saprissa. 2020, encore une fois, 2-1 contre Olympia. Ça, c'est là où, est-ce qu'évidemment, on était, si je ne me trompe pas, en plein COVID, là, le 10 mars, je me sens... Non, c'est pas vrai, excusez, je me trompe, c'est faux. On n'était pas en plein COVID le 10 mars 2020. On l'était-tu, on l'était pas, 2022? Ah, c'était... Non, ça, c'était sur le point de commencer. Donc, le match était normal, si je ne me trompe pas. Et 2022, Santos Laguna, ça vient de se passer 3-0. Ce qui veut dire qu'en 10 matchs à domicile, en Ligue des champions, l'Impact, le club de foot de Montréal, a perdu seulement 2 matchs. Un contre l'Olympia et un contre le géant d'Amérique du Nord, des Caraïbes, de l'Amérique centrale, Club América pour une finale. L'Impact et club de foot, parce que ça a eu les deux, a battu San Jose, Heredia, Red Bulls, fait match avec Pachuca, battu Alajuelense, battu Santos Laguna. Donc le CF Montréal, là, en Ligue des champions, ça n'est pas un club à prendre à la légère. Évidemment, à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile. Là, ça a eu seulement... 2 victoires en 10 matchs, là, donc une contre Olympia qui signifiait pas grand-chose puisque ça avait perdu, et une contre FAS, donc à l'extérieur c'est plus difficile. Mais à domicile, le CF Montréal prend vraiment avantage du fait de jouer à domicile contre des clubs mexicains, américains et d'Amérique centrale et des Caraïbes. Donc voilà, on est tous fiers évidemment du côté de Montréal et du Québec pour le CF Montréal. D'ailleurs, la même soirée, c'est-à-dire mercredi soir, le Canadien a blanchi les Sabres de Buffalo et le CF Montréal a blanchi Santos Laguna. C'est arrivé combien de fois dans l'histoire que le club de soccer montréalais et le club du Canadien de Montréal, dans la même soirée, blanchissent leurs adversaires? Les deux la même soirée. Hein? Bon, contre Buffalo, quand même, c'est Buffalo, c'est pas la meilleure équipe, mais un blanchiment. Blanchir Buffalo. Et en même temps, le CF qui blanchit Santos Laguna. Juste pour vous dire, là, Santos Laguna, c'est... ça a toujours été une équipe qui produit du jeu offensif, là. C'est pas une équipe comme l'Athletic Club Bilbao qui reste en arrière. Faut dire qu'à l'heure actuelle, Santos Laguna est dernier du championnat mexicain. 6 matchs joués, 2 nuls, 4 défaites, 6 buts marqués, 13 buts encaissés. Mais quand même, ils marquent au moins un but par match. Quand même, nos amis de Santos Laguna, équipe mexicaine, éliminée par le CF Montréal. Ça fait plaisir. D'autres résultats, évidemment, qui se sont passés du côté de la Ligue des champions de la CONCACAF. León élimine Deportivo Guastatoya. New York City FC élimine Santos de Guapiles du Costa Rica facilement 4-0. Comunicaciones du Guatemala élimine au pénalty Colorado Rapids, ça c'est une grosse surprise. Pumas élimine Deportivo Saprissa 4-1. Match retour, ça se passait du côté du Mexique. Et là, à l'heure actuelle où est-ce que je vous parle, évidemment les deux derniers matchs n'ont pas été joués là. Cruz Azul a gagné contre Forge FC à Hamilton, donc c'était le match retour au moment où je vous parle, là. Le match n'est pas commencé. Donc Cruz Azul évidemment, devrait se qualifier. Et de l'autre côté, on a Seattle Sounders contre Motagua. Ça va terminer 0-0. Donc, tout reste à jouer pour, évidemment, ces deux clubs d'Amérique du Nord. Voilà. Donc, écoutez, c'était l'information, évidemment, pour la CONCACAF cette semaine. Europe, CONCACAF, on est là, on reste là. On va aller en musique, on revient après ceci avec d'autres informations sur le monde du soccer. Bougez pas.
Soleil, qui de nous deux se blessera. Allez, dévoile-moi ton jeu. Je sais qu'ailleurs tu t'abandonnes comme un roi, avec mon cœur pendu dans le cou. Ne bat-il pas, ne bat-il plus? Serait-ce la fois où tu me largues à jamais? J'ai 100 kilomètres à faire demain. J'aurais tellement voulu que tu sois mon copain.
Retour à Soccer Love. Donc, merci d'être là ce soir, chers auditeurs, chers auditrices. On vient d'entendre la chanson Lumière. 100 km, le titre de la chanson 100 km de Lumière. Nouveauté francophone pop à CFAC 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Benstead avec vous pour conclure cette émission de soccer. Aujourd'hui, on va vous parler de la EFL Cup, qui veut dire en anglais English Football League Cup. Quand on parle du championnat anglais, évidemment, on pense surtout à la Premier League, qui est le championnat, donc 20 équipes, 38 matchs durant la saison. On pense également à la Football Association Cup, qui est la coupe la plus importante, une des coupes les plus importantes d'Europe, là, si on parle de championnat individuel. Et on a ensuite la English Football League, qui est comme la troisième compétition la plus importante, mais qui rapporte évidemment de l'argent. Contrairement à la FA Cup, cette compétition-là a été créée beaucoup plus tard et cette fin de semaine, on va voir la finale de cette coupe. Voilà. Donc, elle a commencé en 1961, évidemment, la EFL Cup. C'est une compétition qui a surtout été créée pour permettre à des clubs de ramasser plus de revenus avec des matchs, puis également à des clubs ou également pour qu'ils puissent participer à une autre coupe quand ils étaient éliminés de la FA Cup. Donc, pour ajouter, parce qu'on le sait que pour des équipes, en fait, qui ne sont pas dans le top du championnat anglais, c'est-à-dire dans la Premier League, pour avoir une certaine... pour être vu à travers le soccer anglais en général et même le soccer européen, les coupes, c'est toujours une bonne façon de le faire. Et cette EFL Cup a permis ça pour beaucoup d'équipes. Elle a commencé en 1961 et elle a toujours continué jusqu'à cette année en 2022. Voilà. Et la coupe, cette année, évidemment, elle s'appelle la Carabao Cup. Carabao Cup. C-A-R-A-B-A-O Cup. Moi, je pensais que c'était un nom brésilien, Carabao, mais non. Carabao, c'est tout simplement une boisson énergisante qui vient de la Thaïlande. Et la Thaïlande donne beaucoup d'argent à l'Angleterre, évidemment, pour que, ben, la coupe, cette coupe anglaise-là s'appelle la coupe Carabao. Comme ça, évidemment, ça donne cette boisson énergisante a beaucoup plus de visibilité. Et cette année, ça va être la 62e finale de la EFL Cup. Évidemment, comme je l'ai dit, là, c'est une compétition qui est beaucoup plus récente, même si elle est âgée, là, évidemment, mais c'est beaucoup plus récent comparé à la FA Cup. Je vais vous donner les derniers vainqueurs. Évidemment, vous verrez qu'il n'y a pas de surprise. 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, ce sont des équipes de Manchester qui ont gagné. Manchester City l'a gagné 4 fois de suite. Ensuite, en 2017, ça a été Manchester United. 2016, Manchester City. 2015, Chelsea. 2014, Manchester City. 2013, une belle petite surprise, Swansea City. Swansea, d'ailleurs, qui est une équipe qui peut jouer en Premier League anglaise parce que c'est une équipe du Pays de Galles. Parce qu'il y a un championnat du Pays de Galles. Mais Swansea et Cardiff sont beaucoup trop forts pour ce championnat-là. Donc, ils jouent en Premier League, mais là, ils sont pas là, ils jouent en deuxième division anglaise, donc en Championship. En 2012, Liverpool a battu Cardiff. 2011, Birmingham City a battu Arsenal. 2010, Manchester United. 2009 aussi. Donc, ça a très souvent été, évidemment, des équipes de la Premier League qui gagne presque tout le temps d'ailleurs. Et ça a toujours été au stade Wembley, qui est un stade énorme à Londres depuis 2008. Avant ça, c'était au Millennium Stadium du côté de Cardiff, au Pays de Galles. En anglais, on dit Wales. Voilà. Donc, et sinon, elle a été aussi quelques années à Old Trafford. Donc, les affluences pour ces compétitions-là, c'est généralement 80 000 personnes et plus. Sauf l'année dernière, côté COVID, il y avait eu seulement 7 773 parce qu'il faut comprendre que cette coupe, généralement, elle arrive quand même assez tôt. Je dirais pas au début de la saison, mais là, on est un peu plus que la mi-saison. On est quand même seulement en février. Le championnat anglais se termine, si je ne me trompe pas, mars. Donc, c'est un titre qui peut être cherché très tôt. Niveau palmarès par club, pour cette coupe-là, on a Liverpool qui l'a gagné 8 fois, dernière fois en 2012. Manchester City, 8 fois. Aston Villa, 5. Manchester United, 5. Chelsea, 5. Tottenham, 4. Tottenham, son dernier titre, là, en fait, c'est en 2008. Et c'était la Coupe EFL Cup, la Carabao Cup, mais par contre, elle l'a perdue en 2021, 2015, 2009, 2002 et 1982, elle l'a perdue 5 fois. Voilà. Donc, il y a plusieurs équipes qui l'ont gagné. Et cette année, ben, pour cette compétition-là, ça sera pas, il n'y aura aucune surprise, évidemment. On va avoir, je vais vous donner d'abord les quarts de finale. En quart de finale, Arsenal a éliminé Sunderland 5-1 au cumulé. Chelsea a éliminé Brentford 2-1. Liverpool a éliminé Leicester City au tir de punition. Et Tottenham a éliminé West Ham. En demi-finale, ça a donné Chelsea 2, Tottenham 0 sur un match, évidemment. Ça c'était le match aller, bien sûr. Et le match retour, Chelsea a également gagné à Tottenham 1-0. De l'autre côté, on avait Liverpool-Arsenal. Liverpool-Arsenal 0-0 du côté de Liverpool. Ça, c'était durant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, pas de Mané, pas de Salah, pas de Naby Keita. Et le 20 janvier, Liverpool a battu Arsenal 2-0 du côté de Londres avec deux buts de Diogo Jota, qui est un attaquant portugais qui est quand même bon. Et là, la finale va se jouer du côté de Wembley, encore une fois arbitré par Stuart Atwell. Et ça sera Chelsea contre Liverpool, qui est quand même une très grande rivalité parce que ces équipes-là se sont souvent affrontées en coupe, en Ligue des Champions, en coupe. Souvent, ils ont été des très grands rivaux également en championnat anglais pour gagner le titre. Donc, ça va quand même être très intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est le 27 février, ce qui veut dire dimanche, 10h30, heure de Montréal. Niveau meilleur buteur, on a Marcus Force, le Finlandais, avec 5 buts. Eddie Nketiah avec 5. Côté avec 4 buts, on a Cameron Archer d'Aston Villa. Minamino, le Japonais de Liverpool. O'Brien de Sunderland. Jakobsen de Preston North End. Et Jay Rodriguez avec 4. On a Pierre-Emerick Aubameyang qui a 3 buts. Mais est-ce que vous savez que l'ami Pierre-Emerick Aubameyang est allé du côté du FC Barcelone. Et depuis qu'il joue avec FC Barcelone, pour le Gabonais né à Laval en France, âgé de 32 ans, il a tout simplement 4 buts en 4 matchs. C'est quand même un grand buteur, hein, Aubameyang. C'est-à-dire qu'avec Saint-Étienne, il avait en 87 matchs, 37 buts. Avec Borussia Dortmund, en 144 matchs, 98 buts. Avec Arsenal, 68 buts en 128 matchs. Et avec Barcelone, 4 buts en 4 matchs. Donc, il a très souvent plus de 1 but par 2 matchs. Évidemment, du côté de la Bundesliga, on sait que les défenses sont moins bonnes. Donc, 98 buts pardon, en 140 matchs, c'est tout simplement énorme. Voilà. Donc, évidemment, ces deux équipes-là ne joueront pas de match de la Premier League, Chelsea-Liverpool. Ça va être une finale à regarder. Je vous invite à la regarder, là, vraiment, ce week-end, si vous n'avez rien à faire. Évidemment, c'est disponible sur YouTube, si vous voulez, dans le pire des cas, écouter l'audio. Donc, cette fin de semaine, on a quoi comme match? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait Southampton-Norwich City. Demain, Leeds reçoit Tottenham. Arsenal-Liverpool est annulé, évidemment, à cause de la finale. On a également Manchester United qui reçoit Watford. Brighton reçoit Aston Villa, Brentford reçoit Newcastle United, Crystal Palace reçoit Burnley, Everton reçoit Manchester City et West Ham United reçoit Everton. Wolverhampton. Au niveau du classement, on en profite pour vous donner un petit classement Premier League. Manchester City qui viennent de perdre un match, là, ils viennent de gagner évidemment contre le Sporting Lisbonne la semaine d'avant, mais ils ont perdu 3-2 à domicile contre Tottenham, donc ils ne sont plus qu'à 3 points de Liverpool. Liverpool, 26 matchs joués, 60 points. Manchester City, 26 matchs joués, 63 points. Liverpool est en feu à l'heure actuelle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font Tottenham, mais Tottenham a sérieusement emmerdé Manchester City plusieurs fois dans les dernières années. Et évidemment, on se rappelle de la fois où ils ont éliminé Manchester City, si je ne me trompe pas, en demi-finale de Ligue des Champions pour aller en finale. Tottenham est tout simplement une équipe qui emmerde énormément Manchester City. Troisième, Chelsea, 50 points. Quatrième, Manchester United, 46. Cinquième, Arsenal, 45. West Ham, sixième, 42. Wolverhampton, septième, 40 points. Au niveau de la relégation, le premier non-relégable en 24 matchs a 22 points, c'est Newcastle United. Après ça, les trois autres sont relégables. On parle de Burnley avec 23 matchs joués, 20 points. Watford, 25 matchs joués, 18 points. Et Norwich City, l'équipe habituée à l'ascenseur anglais, c'est-à-dire en The Championship et la Premier League, 25 matchs joués, 17 points. Pire attaque de la Premier League, ça revient, l'honneur revient à nos amis des Canaries de Norwich qui ont un très beau logo. C'est un oiseau avec du vert et du jaune. 15 buts marqués en 25 matchs. Et la pire défense de la Ligue anglaise de la Premier League revient à Norwich également avec 53 buts encaissés en 25 matchs. Donc, c'est plus évidemment de 2 buts par match encaissés. Meilleur buteur de la Premier League. Meilleur buteur de la Premier League, on va vous donner ça à l'instant. Je me suis un peu perdu, là, je suis dans le Manchester City, mais Manchester City ne m'intéresse pas. On parle de Mohamed Salah avec 19 buts, et le deuxième, c'est Diogo Jota avec 12 buts, et le troisième, Sadio Mané avec 11 buts, le quatrième, Sterling avec 10 buts. Donc, les trois premiers meilleurs buteurs du championnat anglais sont les trois joueurs offensifs de Liverpool. Et le meilleur, c'est Mohamed Salah avec 7 buts d'avance. En plus, évidemment, qu'il a raté plusieurs matchs à cause de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, cette année, je vous avertis encore une fois. Liverpool, Sadio Mané, champion d'Afrique. Sadio Mané, troisième meilleur buteur du championnat anglais. Sadio Mané, joueur extrêmement utile de Liverpool. Sadio Mané devrait, si Liverpool gagne la Ligue des Champions et que Sadio Mané la joue, je vais vous dire un secret. Il faut que Sadio Mané gagne le ballon d'or. Right? Samuel Eto'o ne l'a pas eu, il aurait dû l'avoir. Il y a quelques années, Virgil van Dijk n'est pas africain, là, mais il aurait dû l'avoir aussi. Et il jouait à Liverpool aussi. Right? Donc moi, donner un ballon d'or à Lionel Messi parce qu'il a gagné une Copa América, puis on veut faire du bling-bling, du business avec ça, c'est correct. Une fois, mais pas deux. Là, Messi, cette année, là, s'il gagne le ballon d'or, honnêtement, c'est comme si Trump gagnait le prix Nobel de la paix. Là. Messi ne mérite pas le ballon d'or cette année. Donnez-le, s'il vous plaît, à Sadio Mané, champion d'Afrique. Voilà. Donc, voilà. C'est pas mal ça du côté du monde du ballon pour cette semaine. On a presque fini l'émission. Quelques petits matchs à suivre. Atlético de Madrid reçoit Celta Vigo samedi à 3h, heure de Montréal. Le Real Madrid se déplace du côté du Rayo Vallecano à 12h30. Samedi. Également, on a le Bayern Munich qui se déplace du côté de l'Eintracht Francfort. Empoli reçoit la Juventus et le Paris Saint-Germain, évidemment, reçoit Saint-Étienne. Ça, c'est un bon petit match. Dimanche, Barcelone reçoit l'Athletic Club de Bilbao. On a également un certain Lazio-Naples. Ça, c'est du côté de 2h45 en Italie. L'Olympique Lyonnais reçoit Lille et l'Olympique de Marseille se déplace à 3. Et nos amis du Portugal, FC Porto reçoit Gil Vicente de Portugal et Benfica reçoit Victoria. Je vous ai évidemment parlé de l'Impact de Montréal qui jouait son premier match dimanche prochain. C'est pas un secret pour personne. Et la semaine prochaine, on pourra vous parler évidemment du champion anglais de la EFL Cup, la Coupe, la Coupe Carabao. Et juste pour vous dire qu'on a des matchs de la Coppa Italia, on a deux demi-finales de la Coupe italienne. On parle évidemment de l'AC Milan qui reçoit l'Inter de Milan le 1er mars et de la Fiorentina qui reçoit la Juventus le 2 mars. Donc voilà, c'est tout pour cette émission. C'était Wissam Bensta avec vous pour cette émission de Soccer Love. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine et on se reparle la semaine prochaine, vendredi prochain, 20h, CFAC 88,3 FM. Bonne semaine. Au revoir.